Avoyons. Cette semaine, Rémi Dibowski-Douatte rencontre Edwy Plenel. Ce soir, découvrir le monde.
Bonsoir Edwy Plenel.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir à Mediapart, où nous avons parlé hier de votre arrivée à Paris, de votre engagement auprès de la Ligue communiste révolutionnaire et de vos débuts de journaliste dans les colonnes de Rouge, puis au Matin de Paris. Alors, Edwy Plenel, pour les moins de 30 ans, vous êtes l'homme à la moustache, le courageux Robin des Bois du journalisme et l'infatigable pourfendeur du secret d'État, l'homme de Mediapart. Mais pour tous les autres, les plus vieux, vous êtes aussi une figure du quotidien Le Monde. Et le 2 mai 1980, vous arrivez boulevard des Italiens à la rédaction du Monde et entamez une séquence de votre vie qui durera 25 ans. Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit à ce moment-là, en ces jours de mai 80?
Comme probablement dans tout ce que j'ai fait, je suis à la fois au fond de moi tétanisé, impressionné, puis en même temps, bon, ben voilà, il faut monter, quoi. J'arrive et puis je découvre aussi, je découvre. Et j'ai raconté dans la troisième équipe, un livre qui n'a pas du tout marché, sur mes souvenirs, sur l'affaire Greenpeace, donc pour ses 30 ans, un peu ce qu'était le monde de cette époque, et puis des personnages pas connus, le côté un peu monastère du monde d'un journal indépendant, où il y avait une certaine forme d'austérité que j'aime bien, et je crois qu'on a reproduit, ça empêche. Ça ne veut pas dire austérité, ne veut pas dire sinistre, ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire la fête, ni boire des godets, etc. Mais une forme d'austérité qui est une façon de se tenir. Et voilà, c'est ce journal-là où j'ai eu, j'allais dire, 15 ans de très grand bonheur, qui sont mes 15 ans de journaliste, ceux qui sont pour moi ma vraie période au monde, hein, qui sont les 15 années où je travaille d'abord la rubrique éducation, puis ensuite la rubrique police, et où je fais mes scoops. Et vraiment, c'est au monde que j'ai découvert cette idée qu'au fond, une presse indépendante, c'était pas simplement un journal, c'était un pilier de la démocratie. J'arrive en 80, un an après, François Mitterrand est élu président, et Le Monde a accompagné de manière très engagée cette alternance politique. Et un an après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, je prends la rubrique police. Et moi, je suis de cette génération qui lisait Le Canard enchaîné, qui lisait Le Monde sous la droite. Toutes les affaires, tous les scandales, la corruption, les répressions policières. Ah, pour moi, il me paraissait évident que si des mêmes faits arrivaient, bah, il fallait les révéler aussi. Et donc, je vais découvrir ça. Je vais me retrouver à faire ça dans le cadre de ce journal face à ce pouvoir de gauche.
Alors, il y a mille manières de faire ce métier. Vous êtes allé vers l'enquête. Est-ce que vous vous souvenez si ça a été l'objet d'une décision ou si, en fait, pour vous, il n'y a pas d'autre manière de pratiquer ce métier?
Pour moi, le journalisme, c'est trouver des informations. Et donc, c'est évidemment d'abord trouver des informations qu'on ne connaît pas. Journaliste, c'est pas refléter la communication, refléter une conférence de presse, refléter un communiqué. C'est pas commenter une citation. C'est aller chercher des infos par le reportage quand on va sur le terrain, qui est une forme d'enquête. Faut trouver des témoins, faut trouver des gens qui vous racontent, faut aller au plus près, etc. Ou par l'enquête au sens de l'investigation. Et comment je découvre ça? Je le pratique déjà. Je me souviens que rubricard éducation au Monde, je fais une enquête sur le bizutage aux arts et métiers. Sujet tabou, aujourd'hui encore, ça revient. Je montre des pratiques qui sont des pratiques sadiques, couvertes par, évidemment, le milieu des ingénieurs, etc. Je révèle comment? Avec des documents, avec des pièces, je fais ça, je fais l'enquête. Ou bien je vais couvrir des manifestations. Je me souviendrai toujours, rubricard éducation, je couvre une manifestation. Il y a une fin de soirée, il y a des autonomes. Aujourd'hui, le maintien de l'ordre était paradoxalement moins violent qu'aujourd'hui. Et il y a des autonomes qui font des bêtises devant l'université de Jussieu. Et je vois l'unité de police qui fait des tirs tendus de grenades lacrymogènes. Ce qu'on appelle un tir tendu, c'est que vous tirez à l'horizontale, donc ça peut gravement blesser quelqu'un au lieu de le tirer, ce qui est réglementaire, à la verticale. Et je vois le commissaire de police. Puis je lui dis, mais vous voyez là, vous donnez, etc. Bon, je fais mon boulot. Truc, je me fais engueuler par tous les reporters harnachés, machin, qui disent « Mais t'es fou, à la prochaine charge, ce sera pour nous, t'es irresponsable, etc. » Le lendemain, j'arrive au Monde, on arrivait très tôt, et je vois celui auquel je vais succéder plus tard à la Rubrique Police, James Sarrazin, grand personnage, voilà, qui disait « Bonjour ma poule », qui était une grande élégance derrière ce côté-là, avec ses gourmettes, mais une grande élégance de plume aussi. Et je lui dis « Dis-moi, James, tu pourrais pas savoir quelle était l'unité qui était ce jour-là, à telle heure, hier soir, à telle heure, devant Jussieu ?» Il donne une coup de fil à un syndicaliste policier. « Dis-moi, qui était à la salle de commandement hier? Tu pourrais me... » Une demi-heure après, j'avais l'unité. Je fais mon petit reportage sur ce manquement au règlement. Il y en a tous les jours aujourd'hui, hein, ça peut paraître ridicule. Et grâce à James, je raconte l'histoire et je dis quelle était l'unité. Et ça a eu des conséquences à la préfecture de police.
C'était pas l'usage.
Oui, voilà. Donc pour moi, c'est une évidence de faire ça. Alors après, un an après ce que je viens de vous raconter, la rubrique police est en jachère, personne la veut, il y a un préjugé. Hein, on aime faire la justice, on aime fréquenter les magistrats, mais les policiers, les flics, il va falloir que tu t'arsouilles, il va falloir que tu fréquentes, voilà, etc. Il y a un préjugé social sur la police. Bon, et du coup, moi, j'en ai pas de préjugé, en rien, je crois. Hein. Bon, et donc je prends cette rubrique, donc j'écris de manière très sérieuse sur ces questions-là. Et du coup, les policiers se disent, tiens, celui-là, il s'intéresse à notre métier. Et s'il s'intéresse à notre métier, bah du coup, il est crédible. Et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah que derrière ce paravent social, il y a des pépites. Et bah du coup, vous arrivez à découvrir des secrets. C'est comme ça. Il y a eu une vague. Moi, je démarre. Il y a une vague d'attentats. Le terrorisme aujourd'hui sert de prétexte à des politiques sécuritaires terribles. Mais à l'époque, il y avait déjà des attentats. L'attentat de la rue des Rosiers, je le couvre. C'est un attentat antisémite par un commando qui n'est toujours pas vraiment totalement identifié, venu du Proche-Orient. J'arrive sur les lieux, puis après je fais mon enquête, et puis c'est comme ça que j'arriverai à mon premier scoop, puisque pour faire du chiffre face à cet attentat, on va trouver de faux coupables, des Irlandais, hein, par une manipulation faite par ce qui sera connu comme la cellule de l'Élysée, qui sera le cabinet noir de la présidence de Mitterrand, et ma première histoire sera de démonter tout cela. Et avec les esbroufes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus verrouillé, mais en même temps, on a les mêmes astuces. Moi, je me souviens, je prenais le téléphone et pour essayer d'avoir des infos, je faisais « Passez-moi un tel !» Comme si... au bluff. Et alors, secrétaire, passait un tel, et puis je me retrouvais avec le commissaire de la brigade criminelle à qui je posais des questions. Puis après, il y a des relations de confiance qui se font avec des sources. J'ai rendu hommage à l'une d'elles après sa mort, que j'avais surnommé le consul, qui est comme il y a eu Deep Throat, moi j'ai eu le consul, qui a été une source très importante de confiance et qui respectait. C'est quoi une bonne source? C'est quelqu'un qui au fond respecte votre indépendance, qui au fond, si un jour une source veut obtenir quelque chose de vous, c'est fini quoi. Si elle vous ment un jour, c'est fini. Donc j'ai appris, pareil, l'autodidactie, j'ai appris dans ce contexte. J'ai jamais théorisé l'idée, je fais du journaliste d'investigation. J'ai, en clair, l'univers de la police, de la sécurité, de l'enquête judiciaire vous amène à aller à l'extrême de l'enquête.
C'est-à-dire le secret d'État.
Eh oui, le secret d'État, le secret des affaires. Au fond, à découvrir ce qui est au fondement d'une culture démocratique, que le secret ne peut pas être l'alibi du crime. Et qu'il n'y a pas... Et c'est fondamentalement ce que nos jurisprudences démocratiques ont fondé, et qui est aujourd'hui souvent remis en cause, c'est que si le secret défense sert à masquer des ventes d'armes qui ne sont pas reconnues et qui aident des sales guerres avec des civils qui sont tués, il est d'intérêt général de le savoir. Si le secret des affaires cache la fraude et l'évasion fiscale, il est d'intérêt public de le savoir. Si le secret de l'intimité privée masque le dépouillement d'une vieille dame, fût-elle richissime comme Madame Bettencourt, il est normal de révéler qu'il y a cet abus de faiblesse, etc.
Quand vous enquêtez sur le bizutage, par exemple, c'est une chose, mais quand on parle de l'affaire du Rainbow Warrior, c'en est une autre. Là, vous vous attaquez à du sérieux. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
Je pense qu'il y a chez moi une forme d'inconscience. Je m'en fais pas une montagne, je me raconte pas de films. J'impose déjà à cette époque, et je crois avoir été un des premiers à défendre ça, l'idée qu'il faut pas enquêter seul. Je co-signe avec Bertrand Legendre, puis après avec Georges Marion, pratique qui va se généraliser dans les générations suivantes.
Que vous reproduirez ici à Mediapart.
Oui, on enquête à plusieurs. Le premier à vous corriger, c'est votre collègue. Si vous êtes seul, vous devenez le héros de votre propre enquête, et c'est dangereux, et vous pouvez faire des sorties de route. Et donc, c'est vrai, au moment de l'affaire Greenpeace, j'ai 33 ans, je fais tomber, par nos révélations, un ministre de la Défense et un chef des services secrets, je suis simplement excité par l'idée de trouver la vérité, de trouver la carte qui fait tomber le château de cartes du mensonge officiel. Pour le résumer,
pour rappeler les faits,
tout le monde a compris que c'est la France qui a décidé un acte de terrorisme contre le bateau amiral du mouvement écologique Greenpeace à Auckland en Nouvelle-Zélande. Mais le pouvoir officiel, alors que tout le monde a compris et qu'il y a tous les indices, le nie. Et François Mitterrand le nie jusqu'à l'incroyable. Et il le nie parce qu'il y a un petit espace où le mensonge peut fonctionner. Donc la course de vitesse, c'est trouver l'élément manquant, le chaînon manquant, qui va faire tomber ce mensonge officiel. Et le chaînon manquant, ce sera l'existence d'une troisième équipe de nageurs de combat. Et c'est une enquête qui me tiendra tellement à cœur que 30 ans après, ben je vais retrouver l'officier qui a mis la bombe sur le Rainbow Warrior. Je vais le retrouver d'abord grâce à la révolution tunisienne, parce que je fais une émission, je passe en Tunisie après la révolution contre Ben Ali, et je trouve, mais vraiment comme dans un film, un petit message sur ma porte d'hôtel où on me dit appeler un tel, et je vais faire la connaissance du colonel Kister, qui va ici même, dans ce studio où nous sommes, raconter l'histoire et présenter ses excuses au peuple néo-zélandais, une histoire qui n'est jamais arrivée dans le renseignement. Comme on a le même âge, et lui, c'est nageur de combat, c'est comme des sportifs de haut niveau, etc. C'est pas les mêmes épreuves physiques, pourrait-on dire. Et on s'est retrouvés, lui qui était dans l'univers du secret, moi, à chercher à dévoiler les secrets. Et c'est pour ça l'image qui me vient, c'est comme un shérif qui cherche depuis longtemps quelqu'un, et puis finalement, quand il l'a trouvé, bah finalement, on est pareil. Mmh. On est pareil. Et on a une sorte de complicité comme ça. Il a eu un ordre qui, cet ordre a quand même coûté la vie d'un photographe, et évidemment, c'était un crime d'État. Donc, voilà, il y a une forme d'inconscience, peut-être, parce que c'est vrai que j'avais en face de moi la présidence de la République, le ministère de la Défense et les services secrets. C'est là, quand même, que commencent mes ennuis. Il faut quand même le dire, c'est là que commence tout ce qui va s'installer et devenir et prendre forme plus tard, quand je serai en situation de pouvoir, comme on dit au monde, la légende noire d'Edoui Plenel. C'est là que, du cœur de l'État, vous ne pouvez pas tuer la vérité. Alors comment faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut discréditer le messager. Il faut que le messager, on va lui inventer une légende. Et vous connaissez la légende qui va fabriquer. Alors, à l'époque, en 85, dans les rapports que j'ai retrouvés, la légende, c'est un trotskiste et son père était un dangereux anticolonialiste. Bon, ça, ils vont refourguer ça dans les rapports. C'est la biographie, c'est la fiche de police, pourrait-on dire. Puis après, on va bâtir la vraie légende, qui va se répercuter, agent de la CIA, l'agent de la CIA étant la chose la plus sidérante. Et c'est là où ils vont plus tard inventer ça, que l'ancien trotskiste, en fait, est un agent de la CIA. Ça fait rire tout le monde.
Il y a, Edoui Plenel, en 91, un loupé retentissant. Pour résumer, vous révélez dans les colonnes du Monde que le régime du général Noriega au Panama aurait contribué à financer la campagne du Parti Socialiste en 88. Or, le tuyau est mauvais et c'est un faux scoop. Est-ce que vous retenez quelque chose? Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là, peut-être pris par l'ivresse aussi du Rainbow Warrior, une course au scoop dommageable à l'information?
Non, l'histoire de Panama n'est pas du tout ni une course au scoop, ni une ivresse. Et non seulement je l'ai vécu comme une sortie de route, mais y compris j'ai posé mon sac et j'en ai fait un livre. C'est moi qui l'ai publicisé, cette histoire. un Panaméen de la famille de l'alpiniste gaulliste Maurice Herzog me sert sur un plateau un scoop, c'est-à-dire un document panaméen attestant de financement de la dictature de Noriega auprès du Parti socialiste français. Et en fait, ce document qu'on m'avait servi était un faux. Je suis retourné à Panama. J'ai fait ma propre contre-enquête. Encore aujourd'hui, des gens m'ont dit à des journalistes « le document était faux, mais c'était un faux pour dire vrai ». Je n'en sais rien. Et de toute façon, à partir du moment où on a fait une sortie de route, on a fait une sortie de route. Bon, je l'ai expliqué, et le livre qui en est né, La part d'ombre, est justement le moment où je bascule dans un autre rapport à l'écriture. Je me dis « mais ça veut dire quelque chose. Si tu as fait cette sortie de route, c'est que tu en avais marre du marigot ». Tu en avais marre d'être la porteur de mauvaises affaires, de mauvaises nouvelles. Il fallait que tu te poses et que tu réfléchisses à ce que ça voulait dire.
C'est l'inconscient qui aurait parlé.
Peut-être, en tout cas, voilà.
Quoi qu'il en soit, en 96, une nouvelle page s'ouvre pour vous au monde. Vous devenez directeur. Vous accédez à une position de pouvoir très importante. Est-ce que vous étiez préparé à ça ?
Non, pas du tout. Mais le malentendu, en l'occurrence, c'est le suivant. Je suis dans un moment de crise au monde. Nous essayons collectivement de défendre l'indépendance du monde. Je rappelle que ce journal, à l'époque, comme Libération, est contrôlé par ses journalistes. Il n'y a pas d'actionnaire extérieur.
C'est
il est totalement indépendant. Dans ce contexte, je mène une bataille et je suis élu au conseil de la Société des rédacteurs du Monde et je deviens vice-président de cette Société des rédacteurs. Il y a à l'époque un directeur qui nous a été imposé notamment par l'homme qui est notre adversaire, pourrait-on dire, Alain Minc, qui a été introduit comme président des Amis Société, des lecteurs plutôt du Monde, qui est un homme extérieur, un homme du monde des affaires, un monsieur qui ne connaissait rien au journalisme. Et donc nous faisons, dans ce conseil de la Société des rédacteurs, il y a 12 membres dans mon souvenir, j'élabore un document. Et Dieu sait si au monde les gens sont divers, différents, ont des histoires, c'est un passé, le journal est né en 44, etc. Et ce document de critique de la gouvernance de l'époque et de projet de relance du journal obtient l'unanimité de ce conseil. C'est ce document qui va créer le refus par la Société des rédacteurs de voter le budget proposé par ce directeur qui s'appelait Jacques Le Sourde et provoquer la nomination, j'allais dire, du plus jeune dans le grade le plus élevé parmi les journalistes, de Jean-Marie Colombani comme directeur du Monde. Je dis ça parce que c'est ça qui n'est jamais rappelé. C'est pas une bataille de pouvoir, c'était une bataille pour refonder l'indépendance de ce journal. Moi, je ne vous souhaite aucunement prendre des responsabilités, mais le nouveau directeur, Jean-Marie Colombani, qui tenait beaucoup à la relation et à l'activité et aux idées que j'avais défendues, me fait venir à la rédaction en chef et nous appliquons ce programme qui était de faire une nouvelle formule, de repenser le journal. Et qu'est-ce qui arrive ? Bien avant 96, tout ça se passe en 94, on lance cette nouvelle formule en 95.
Donc vous êtes le principal
et animateur. Et voilà, je me retrouve à faire, ayant pensé tout ça, je deviens celui qui sait conduire ce bateau, quoi. Voilà, pour dire les choses clairement. Bon, et là, le vrai malentendu commence. Donc, je vais devenir, en effet, directeur. Pourquoi c'est un malentendu ? C'est que moi, je fais ça comme je suis. C'est-à-dire, je me dis, je me souviendrai toujours, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, le consul, qui était au cœur de l'appareil d'État, me dit, Plenel, monsieur Plenel. Mais attendez, vous avez obtenu là, vous avez fait ce que dont tout le monde rêve. Vous avez fait un coup d'État, vous avez pris le monde. Je dis ben non, on a mené une bataille pour défendre ça. Non non, mais, sincèrement, hein, il me dit faites-vous bien payer, mais ne prenez pas de responsabilité. C'est-à-dire, il voyait comment le monde extérieur allait faire payer cet intrus qu'il prend. Et donc moi, voilà, je me dis je suis un artisan du métier, on va mener. Et c'est vrai que je bouscule ce journal en disant aux journalistes et à l'équipe du Monde, et ça marche, disant, vous savez, la publicité, il n'y a pas écrit La Poste là-dessus, je leur dis, il n'y a pas écrit Le Monde, là. C'est pas parce que vous êtes au Monde que vous êtes les meilleurs. Il faut le prouver tous les jours. Il faut se bousculer, il faut que ce soit un journal qui marque l'agenda, qui anticipe. Il sort à la mi-journée, la révolution numérique allait arriver, mais s'il sort à la mi-journée et qu'il est vendu le lendemain en province, ça peut pas être un journal rétroviseur. Il faut qu'il regarde ce qui se passe. Et on fait, je crois, un très bon journal avec de superbes réussites. Mais on le fait, et notamment dans mon cas, on le fait dans une indépendance farouche. Moi, je suis aux cuisines, je fais ça. Il y a ce pouvoir, cette réussite, mais il y a tout un monde qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce type qui nous échappe, sur lequel on n'a pas prise.
Vous étiez outsider dans la course à la direction et vous continuez de l'être quand vous y êtes.
C'est comme ça que je le vis et c'est ce que je crois, ce qui est arrivé. L'attentat de 2003, c'est-à-dire le livre
de Péan Cohen.
Philippe Cohen et Pierre Péan, c'est une sorte de machine infernale par rapport à ça. Et la machine infernale va faire le trou dans la coque. Et oui, elle va révéler ce fait, je suis en dehors, je suis en dehors. Alors, quand on lit ce livre, entre nous, j'en rigole parce que tout ça m'a sidéré sur le moment. Mon père avait fait le calcul, notre patronyme est présent plus de fois qu'il n'y a de pages dans ce livre.
Dans la face cachée du
monde. Oui, je suis Fantomas, génie du crime, maître de l'intrigue, le fontriériste, le sans frontiériste, Pétain. Avec Pétain, la terre ne ment jamais, avec Plénel, elle ment toujours. Des choses comme ça. Enfin, je rigole parce que tout ça. Mais tout ça pour dire que, pour moi, je l'ai écrit dans Procès, après mon départ du monde, pour moi, c'était une petite scène de la cruauté qui annonçait ce qui allait se passer. Quand on regarde la dégradation du paysage médiatique de nos jours, quand on regarde cet envahissement des opinions, des talk-shows, la violence, la vulgarité, la droitisation du paysage éditorial, etc., je pense que tout ça se joue là, et se joue d'ailleurs avec des personnages qui illustreront ça, venus de la gauche mais allant vers la droite, nationalistes, très accrochés à une très grande France. Pierre Péan le montrera en défendant toutes les parts d'ombre de Mitterrand jusqu'à la question du génocide au Rwanda, quand même, en étant négationniste de cet événement. Bon, comment dire, moi je préfère me souvenir des bonnes années. Ce qui est sûr, c'est, je ne vais pas m'étendre, ce qui est sûr, c'est que j'ai profondément compris tellement ce tas de boue était de clous, de poux et tout, qu'il fallait que je prenne une. Voilà, comme pour moi, c'est toujours l'image de la randonnée, il faut prendre un petit chemin, que là, il fallait que je reprenne ma liberté. Et là, peut-être ai-je beaucoup déçu de gens qui sont toujours au monde aujourd'hui, c'est que les gens s'attendaient peut-être à ce que ça se traduise par une bataille de pouvoir. Je menais ce journal, ça réussissait, il y avait une attaque, et moi j'ai choisi de pas traduire ça par une bataille de pouvoir. J'ai choisi plutôt de reprendre ma liberté, de me battre en revenant à la base, de perdre cette bataille, de dire que le monde allait être vendu, c'est ce qui s'est passé. Et du coup,
ce qui est atypique, c'est que vous avez montré depuis le début de votre engagement de journaliste, j'allais dire, un appétit pour la combativité. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment précis, où Philippe Cohen et Pierre Péan sortent la face cachée du monde, pour que vous n'alliez pas au combat?
Parce que c'était un combat de pouvoir, forcément. Le seul combat, c'était de dire il y a dans ce livre des choses vraies sur la situation économique du monde que je découvre, qu'on m'a caché, et qui concernent le directeur et le président du conseil de surveillance, Alain Minc. Et dire ça, c'est un scandale. Et là, me révolter. Et c'est une bataille de pouvoir. Moi, je n'allais pas rentrer dans cette bataille de pouvoir. Donc, il y avait une certaine forme de combativité de ma part. C'était d'abord de tenir bon. De faire face.
Personnellement, vous.
Bah oui, de faire fond. C'était d'une violence inouïe, toute cette histoire. Et c'est là que, d'ailleurs, aujourd'hui, toujours, quand je me retrouve face à des adversaires sans foi ni loi, c'est cette légende noire installée par le Péan Cohen qui est ressortie. Alors, il n'y a que la CIA qui ne ressorte pas parce que ça devient trop ridicule avec le temps, mais tout le reste sort. Donc voilà, ça m'a amené à une. Peut-être à prendre des forces, au contraire. À réfléchir aussi sur le pouvoir, sur le malentendu au monde. Je l'ai dit dans le procès, j'ai dit, c'est un paradoxe, mais j'ai certes été trotskiste, mais ma seule période d'illusion militante, d'aveuglement militante, c'est ma période mondiste. où je me disais, voilà, faut y aller, faut faire le meilleur journal, et au fond, y a pas une feuille à papier à cigarette, je ne regarde pas dans l'assiette du voisin, j'y allais, comme
vous
ça.
Vous avez plus cru au monde qu'à la quatrième internationale?
Oui, non, mais j'ai été dans une sorte de croyance, voilà, que ça allait marcher, et j'ai pas préservé ni mes arrières, ni, voilà, j'ai été dans une forme de loyauté face à, probablement avec des gens qui ne l'étaient pas forcément,
vous
eux, loyaux.
Trahi?
Non, j'aime pas ces grands mots. Voilà, si on est trahi, c'est qu'on a laissé faire. Hein. Je sais pas comment vous dire.
Dans ce que vous décriviez, vous avez découvert des choses.
Oui, bien sûr, j'ai découvert des choses. Bah, ça m'a appris. Peut-être que je me suis pas assez battu dans la cour de récréation quand j'étais gamin. Peut-être que, voilà, je me dis ça souvent. Peut-être que j'ai une trop grande tendance à faire confiance dans l'humanité. C'est mon optimisme fondamental. La défiance ne peut pas être une règle de vie pour moi. Donc voilà, l'éditeur de ce livre, Claude Durand, qui était le patron des éditions Fayard, que j'ai revu à sa demande après Mediapart, et preuve que, bon, voilà, je sais pas, c'est lui qui a demandé, je vais pas dire, et qui a été le maître d'œuvre de ce livre, qui a mis les deux auteurs ensemble et qui a lui-même écrit une petite partie.
C'était deux enquêtes distinctes.
Oui, au départ, voilà. Alors, il voulait me voir pour me féliciter pour Mediapart, et il disait, mais Edoui, je vous ai rendu un très grand service, je vous ai redonné votre liberté. Voilà. Comment dire, il faut prendre ça comme ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que, ça aurait pu me tuer, j'aurais pu retourner ça contre moi. Ça m'a permis de reprendre des forces, de mieux comprendre, de ne pas répéter dans le cadre de Mediapart des mêmes erreurs, de savoir ce que j'acceptais, ce que je n'acceptais pas, de peut-être mieux savoir dire non.
Vous dites que ça aurait pu vous tuer, qu'est-ce que vous voulez dire? Que ça a été à ce point une blessure?
Oui, bien sûr, quand je démissionne du Monde, j'en quitte, puisque je démissionne, puis après je suis licencié avec un jugement de la commission arbitrale qui condamne le Monde à me verser les indemnités qu'il me doit, j'ai 53 ans. À 53 ans, dans ce métier-là, avec des certaines notoriétés, bon, voilà, vous ne vous réinventez pas forcément. Bon, et d'ailleurs, a priori, je me voyais, je commence à faire des cours à l'université de Montpellier, à l'université de Neuchâtel, je fais des livres, j'ai une petite émission sur les livres à la télévision. Quand je me dis me tuer, pas me tuer physiquement, mais bon, voilà, ne plus me battre, ce qui ne me va pas tout à fait. ne plus être dans cette... C'est plus qu'une vitalité, j'ai besoin, moi, de C'est curieux, mais j'ai un rapport presque physique à ce que je fais, même s'il s'agit que de mots, que de choses comme ça. Donc j'aurais pu lever le pied. Et puis là, finalement, à quelques-uns, on se dit qu'à un âge déraisonnable, quand je crée Mediapart, j'ai 55 ans. Et normalement, on peut se dire, et en fait, ma jeunesse, je la retrouve à Mediapart.
Voilà, merci Edoui Plenel. C'est une histoire, celle de Mediapart, que nous allons raconter demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Rémi Dibowski-Douat avec Edoui Plenel. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Yvan Turc, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.